Vous écoutez France Musique.
En 1930, le grand Wilhelm Furtwängler note dans son agenda quelques recommandations qui, selon lui, devraient toujours guider un chef d'orchestre. Devant l'orchestre, dit-il, le regarder en parlant, parler calmement, tout ce qu'on exige, l'exiger totalement, tout dire le plus brièvement possible, toujours un regard clair et direct, rire peu, être toujours agissant, ne jamais se sentir offensé, ne rien abdiquer de sa personnalité. Fin de citation. Et si ces conseils, ces précieux conseils, ne s'adressaient pas seulement aux chefs ? Depuis de nombreuses années, en effet, la référence aux chefs d'orchestre est très fréquente dès qu'on parle de management ou de leadership dans les organisations ou les entreprises. D'un chef d'orchestre et d'un manager, on pourra dire qu'ils doivent chacun s'adapter à une équipe qu'ils n'ont pas forcément choisie, qu'ils doivent s'imposer face à cette équipe, encourager les responsabilités individuelles, valoriser les diversités, clarifier les rôles et les responsabilités de chacun, organiser la coopération entre les hommes, décider des moyens et des méthodes pour atteindre les objectifs, contrôler les résultats, etc. etc. Bref, le manager serait un chef d'orchestre en puissance. Et ce qui est valable avec la direction d'orchestre l'est aussi avec la direction de chœur et même avec la pratique de la musique de chambre, puisqu'un quatuor en fait même aujourd'hui l'essentiel de ses activités, déclarant, je les cite, que la musique devient une métaphore puissante pour illustrer le travail d'équipe, le leadership, la conduite du changement. La musique comme outil de management, c'est le sujet du jour dans 30 minutes d'entracte, en compagnie comme tous les samedis de Marie-Hélène Duvigneau avec deux invités, Michel Podolac, chef d'orchestre et intervenant, et Tanguy Luneven, chef de chœur et consultant. C'est tout de suite. Chœur et l'orchestre de l'Opéra de Vienne, dirigé par Lamberto Gardelli, dans le chœur de Nabucco de Verdi, pour nous donner peut-être cet élan. Je ne sais pas pourquoi Tanguy Luneven a choisi cet extrait. Bonjour.
Bonjour, Jean-Rémy.
Pourquoi avez-vous choisi cet extrait de Nabucco pour parler de la musique, outil de management? C'est comme ça que j'ai appelé l'émission aujourd'hui.
C'est une œuvre qui me touche beaucoup. Ouais. Et aussi, c'est une œuvre qui, dans l'entreprise, quand elle est chantée par les collaborateurs, réveille beaucoup de puissance.
Ouais.
Alors vous êtes beaucoup d'envie, ouais, Ouais.
Vous êtes chef de chœur, hein,
voilà,
Tanguy
Lundvén,
ouais. Et intervenant en entreprise.
Je suis intervenant en entreprise, je suis coach, j'interviens aussi donc, pour faciliter des processus de compréhension de « on a chanté et alors
ouais. ?» Qu'est-ce qui se passe après sur...
Voilà, ouais. C'est ça.
On va y revenir. À vos côtés, Michel Podolac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef d'orchestre vous-même et intervenant également en entreprise. Mmh. Alors l'un est plutôt... fait chanter les salariés, c'est ça? Et vous, c'est plutôt davantage les gestes du chef d'orchestre, non, c'est ça?
Alors, d'abord, je fais aussi beaucoup chanter les gens, parce qu'on se rejoint tout à fait sur, sur cette idée-là, et notamment sur ce chœur-là, qui a un vrai partage, et il se crée une véritable émotion, un véritable collectif autour de ça. Mm-hmm. Et puis par ailleurs, effectivement, je travaille beaucoup sur pas tant les gestes du chef d'orchestre que les intentions, c'est-à-dire ce qui se cache derrière les gestes. Parce que les gestes, finalement, tout le monde les connaît. Il suffit de regarder des images quelconques et les clichés, on l'a vu sur qu'est-ce que c'est qu'un chef d'orchestre et les parallèles. Voilà. Donc, mon idée, le travail que je fais, est plutôt d'aller derrière et d'essayer de faire comprendre aux gens qu'est-ce qui se passe derrière, non seulement de leur faire comprendre, mais de leur faire vivre.
D'accord. Donc, de façon plus générale, on va essayer d'expliquer aujourd'hui comment la musique peut avoir un rôle très important parfois à jouer auprès de salariés dans une entreprise. C'est un petit peu le cadre de l'émission. Et comme tous les samedis, bien entendu, Marie-Hélène Duvigneau, bonjour.
Bonjour.
La musique en entreprise, c'est alors peut-être pour les dirigeants, les cadres, mais pas seulement.
Et oui, à cela une raison. La musique participe à l'amélioration du bien-être des salariés. Elle n'est bien sûr qu'une solution parmi d'autres. Et à l'heure actuelle, les expériences dans le domaine sont encore rares, mais elles existent. Ainsi, Google fournit par exemple à ses employés des casques de qualité pour écouter leur musique préférée, tout en travaillant beaucoup plus élaboré. La solution retenue par Trizelec, le centre de tri des ordures ménagères de la communauté urbaine de Lille. Chaque semaine, une dizaine de salariés a rendez-vous avec un professeur de musique pour une demi-heure de cours individuel, suivi d'une heure de cours collectif avec piano, guitare et chanteur. Cerise sur le gâteau, chaque salarié inscrit reçoit un instrument en prêt pour s'exercer chez lui. Et en fin d'année, les apprentis musiciens donnent une représentation dans l'usine. Une expérience dont se félicite Trizelec puisqu'elle a mis de la cohésion dans l'entreprise et a favorisé la rencontre de deux mondes qui se côtoient finalement assez peu, les cadres et les ouvriers. Une expérience qui pourrait servir d'exemple à l'heure où la crise et la recherche des performances ne font qu'augmenter la pression qui pèse sur les salariés. Or, de nombreuses études récentes montrent que le bien-être au travail améliore la rentabilité et la pérennité d'une entreprise. Autrement dit, les salariés heureux et en bonne santé travaillent mieux, plus vite et plus longtemps. Et quand les entreprises vont bien, c'est le pays qui en profite aussi. Selon le Bureau international du travail, le stress représente un coût moyen de 3% du produit intérieur brut. Et les arrêts maladie ont un impact direct sur les comptes de la sécurité sociale. Selon un rapport présenté récemment, leur coût a d'ailleurs augmenté de 46,5% entre 2000 et 2011, passant de 4,3 à 6,3 milliards d'euros. Finalement, un bon argument pour le développement de la musique en entreprise.
Merci Marie-Hélène Duvigneau. Avant de parler de ce que vous apportez aux entreprises de salariés, je voudrais qu'on vienne un petit peu sur l'historique. C'est impressionnant quand on voit votre parcours, Michel Podolac. Vous avez une activité de chef d'orchestre, hein, je le précise, indépendamment de ce que vous pratiquez en entreprise. Vous avez dirigé des ensembles comme De Zeux-Deuxem, L'Amoureux, l'Orchestre National de l'Île-de-France. Mais quand on voit l'autre partie de votre CV sur votre site, le nombre d'entreprises dans lesquelles vous êtes intervenu, c'est impressionnant. Je ne vais pas aller de A à Z, mais AGF, BNP Paribas, L'Oréal, Siemens, Hermès. C'est-à-dire que vous êtes passé dans toutes ces entreprises pour faire quoi concrètement ?
Eh bien, comme je vous le disais, c'est pour... En fait, il me semble que notre rôle dans l'entreprise, c'est d'éveiller. Oui. D'éveiller quelque chose, d'éveiller une conscience.
Donc c'est les DRH qui font appel à vous directement ?
Alors c'est les DRH, des fois les présidents, des fois les agences de consultants ou des agences d'événementiel également. Mais la plupart du temps, les DRH, effectivement, ou les directeurs de la communication aussi, en charge de communication. Oui. Parce qu'ils ont conscience qu'à un moment, les méthodes traditionnelles de management, les méthodes de formation un peu classiques, on va dire, semble avoir fait un peu long feu. C'est pas dire qu'il faut pas qu'elles existent, mais les collaborateurs dans les entreprises en ont un petit peu assez, je crois, qu'on leur dise comment il faut faire. Et la particularité de ce que je peux faire, je pense que Tanguy est dans le même cas que moi, nous faisons faire aux gens, c'est-à-dire nous faisons prendre conscience aux gens. On n'est pas dans le discours, mais dans le faire.
Ça a commencé comment, ça ? C'est quoi le déclic qui fait que les entreprises, un jour, ont fait appel à des artistes ? Tanguy Lundvén ?
Alors moi, c'est un projet que j'ai maturé parce que je suis anciennement un homme d'entreprise, un ancien cadre, un ingénieur en acoustique. Donc je me suis dit, si je fais de l'acoustique, je ne parquerai pas trop la musique. J'ai arrêté ce métier au bout de 10 ans parce que ça ne correspondait plus à mes aspirations profondes. Et puis, je me suis remis au piano, à la direction de chœur.
Que vous aviez pratiqué, j'imagine.
Quand j'ai fait musicologie, je dirigeais la chorale de l'université à l'époque où
d'accord.
j'étais.
Ouais.
Puis je me suis dit, bien, j'aime les relations humaines dans l'entreprise, même si elles sont parfois pas faciles, et je suis passionné de musique et de chant. Donc comment je peux associer les deux? Et à l'époque, c'était avant 2000, donc c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup de propositions comme ça. Ouais. Et c'était tellement dans mon cœur, dans mon intention, qu'un jour, un patron m'a dit, ben, ok, banco, on y va.
Ça s'est développé quand précisément? Autour des années 2000, c'est ça? C'est là qu'on commence à...
En ce qui me concerne, non, bien plus tôt que ça. Oui. Moi, c'est fin 91, j'ai un homme qui a débarqué dans ma vie après un de mes concerts et qui m'a dit « Je crois qu'il y a des choses à dire entre le management et la direction d'orchestre. Je suis consultant en développement personnel. » Je ne connaissais ni les mots de consultant en développement personnel, ni de management, ni quoi que ce soit. Et à ce moment-là, il enseignait lui-même au CRC, qui est donc maintenant filiale d'HEC. Et il m'a proposé d'essayer. Donc à l'époque, j'étais vraiment un martien, complètement dans ce domaine-là. Et j'ai essayé une fois, deux fois, la troisième fois, il y avait un de ses collègues qui était là, qui m'a dit ah, « c'est sympa ton truc, est-ce que tu peux pas venir essayer chez moi aussi ?» Et en fait, je n'ai jamais arrêté en fait, mais on était donc fin 91 quand j'ai commencé, et à ce moment-là, la pratique du détour était totalement orientée sport.
Du détour?
Oui, on appelle ça le détour, la pratique du détour, du décalage, c'est-à-dire que l'approche détournée des choses. Quoi. Oui.
Vous me disiez tout à l'heure, avant de commencer l'émission, qu'en fait, ça s'inscrivait dans le cadre d'une stratégie, mais d'un procédé des entreprises, de faire appel, dans le cadre de ce détour-là, à des musiciens, certes, mais aussi à des philosophes, me disiez-vous, à des acteurs.
À des peintres également. À des peintres, à des spécialistes en peinture. Oui. Il y a des gens absolument formidables qui interviennent et qui, toujours par le biais de l'art, notamment, vous amènent à réfléchir à qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans votre quotidien. Ça serait bon pour vous, pour Jérémy, pour tout le monde, partout, parce que ces gens-là nous nourrissent énormément et surtout, ça nous permet à la fois de prendre de la distance par rapport à ce qu'on est en train de faire, donc regarder les choses avec un peu de distance, quoi, de froideur, pour mieux revenir après, comme disait Léonard de Vinci, hein, vous connaissez cette citation-là. Et donc ça, la peinture peut répondre aussi bien que la musique, sauf que la musique, en plus, nous avons la chance de pouvoir faire et de faire prendre conscience immédiatement, parce que le son est une chose immédiate, et notamment, comme le disait Tanguy, le chant est une chose que tout le monde peut partager facilement.
Alors, l'un comme l'autre, vous intervenez uniquement auprès des dirigeants, des cadres dirigeants, les salariés de l'entreprise ne sont pas inclus dans l'expérience?
Alors, je vais répondre à votre question, après je rebondirai sur ce que vous avez dit, Michel. En ce qui me concerne, c'est toute la population de l'entreprise. Bien sûr, il y a beaucoup de cadres. Ça peut être parfois les dirigeants avec les comités de direction, les équipes de direction, RH, administratif, etc. Après, ça peut être tout simplement les équipes de cadres. Ça peut être des séminaires où les cadres ne se connaissent pas dans des grands groupes. Puis ça peut être aussi tout le siège social. Ça arrive. Ou même, j'ai fait aussi dans une usine, tous les agents de maîtrise, par exemple. Donc, non, c'est tout est possible. Et puis après, pour rebondir, oui, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que l'approche par le détour, qu'il soit effectivement le chant, la musique, les chevaux aussi, c'est très très puissant, parce que le cheval, il ne réfléchit pas, donc il renvoie exactement notre état émotionnel sans tricher du tout. Et la musique aussi, elle permet d'être en contact avec ses émotions, avec ce qu'on le ressent, avec le sensible qui est en nous. Et ça, je trouve qu'il y a un besoin pour... Bien sûr, on cerveau gauche, donc tout ce qui est mental, l'intellect, anticiper, prévoir, synthétiser, analyser, on sait très bien faire. Mais si on y rajoute du cerveau droit, c'est-à-dire de l'émotion, enfin de l'intuitif, de la créativité, de quelque chose, un sentiment d'être plus grand que nous, alors dans l'entreprise, je crois que c'est vraiment un élément très, très fort.
Michel Podelac.
Non, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai commencé en fin 91, les entreprises attendaient du discours. Ils attendaient qu'on leur explique comment c'était la direction d'orchestre, comment c'était les musiciens, comment ils jouaient ensemble. Enfin, le truc, entre guillemets, que tout le monde peut connaître en assistant un petit peu à une répétition, etc. Et progressivement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que le dénominateur commun, et qui va rejoindre ce que vient de dire Tanguy également, le dénominateur commun, qu'on soit cadre, que l'on soit dirigeant d'entreprise ou bien simple collaborateur, c'est finalement comment est-ce qu'on travaille ensemble et comment est-ce qu'on vit ensemble et la place du chef là-dedans. Donc, suivant les demandes que nous pouvons avoir, nous allons avoir une demande qui va être très, très orientée orchestre, c'est-à-dire équipe, donc team building, ce qu'on appelle team building, travail d'équipe, cohésion d'équipe, ou bien au contraire, à quoi sert le chef dans tout ça? Et pendant longtemps, j'ai séparé les deux pour m'apercevoir aujourd'hui, vraiment, enfin depuis quelques années, qu'on ne peut pas dissocier les deux parce qu'une organisation a besoin d'un chef dans tous les cas. Mais ça me pose la question de quel chef?
Marie-Hélène.
Quand vous arrivez pour la première fois dans une entreprise, je suppose que les réactions sont peut-être parfois un peu étonnées. Il y a une surprise par rapport à votre démarche.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est pour moi, c'est un parcours. Alors, si je vais... Un parcours entre un point de départ et un point d'arrivée. En général, les gens ne sont pas prévenus qu'ils vont chanter parce que ça s'inscrit dans le cadre d'un séminaire qui a une fonction, qui a un rôle. Tout le monde est... Normalement, tout le monde doit être présent. Et donc, quand le directeur RH, le directeur général, le président, enfin le commanditaire dit, ben voilà, je vais passer maintenant la main à Monsieur Lundven, à Tanguy Lundven, qui va nous faire chanter. Alors, en général, les réactions, c'est soit la perplexité, ça peut être l'étonnement, ça peut être une crainte aussi, parce que c'est vrai que le chant, ça réveille chez beaucoup de personnes une histoire personnelle pas toujours très facile. Hein. Mm-hmm. Je chante faux, je chante que sous ma douche.
Et, c'est pour ça que Nabucco est un fédère, si je puis dire.
Nabucco, c'est ouais. magnifique. Ouais. Et tout l'art, c'est parce que c'est progressif, parce qu'il y a des règles de protection qui sont posées, parce que je donne beaucoup de permissions, parce qu'il y a se soutenir mutuellement. Enfin, il y a plein de visions du monde derrière. À la fin, il y a du plaisir, il y a de l'engagement, il y a de la puissance.
Vous concernant aussi, par exemple, lorsque vous êtes face à un manager, est-ce qu'un manager peut vous poser des questions sur la façon de poser sa voix, de projeter sa voix, par exemple, pour être entendu de ses salariés?
Alors, moi, je travaille sur la parole qui touche et qui donne envie d'agir. Pour moi, c'est une thématique qui, pour moi, est au cœur du management. C'est-à-dire comment je suis manager, je donne envie d'agir à mes collaborateurs au-delà du galon, enfin de la hiérarchie ou de la loyauté. Ouais. Tout simplement parce que j'inspire confiance, parce que je suis crédible, parce qu'il y a quelque chose d'authentique qui se génère. Ça, c'est une thématique que je trouve absolument passionnante.
On va faire une petite pause musicale avec un extrait que vous nous avez apporté, Michel Podolac. C'est Ravel, c'est Scheherazade. C'est la dernière des trois mélodies. Et c'est Régine Crespin, accompagnée par Anse Hermé, l'orchestre de la Suisse romande. Scheherazade de Maurice Ravel, Régine Crespin, dirigée par Anse Hermé, un disque légendaire. C'est votre choix, Michel Podolac.
Oui.
Pourquoi en particulier? C'est un rapport avec votre activité ou c'est un simple coup de cœur?
Non, c'est un rapport avec mon activité plutôt en termes de symbole, parce que c'est à la fois la voix, et quelle voix en plus, et à la fois l'orchestre dans ce qu'il y a de plus chatoyant, de plus riche, de plus coloré, et donc qui incarne cette diversité qu'on peut trouver si on va dans le domaine de l'entreprise, également dans une entreprise, c'est-à-dire avec des gens qui sont issus de de tous milieux et qui font des métiers très différents et qui doivent jouer ensemble comme un orchestre.
Comme un orchestre, c'est ça. En fait, c'est ça le cœur de la chose, c'est que la société, enfin les entreprises dans lesquelles vous arrivez sont un peu une image, en tout cas une métaphore de l'orchestre avec lequel le chef doit composer aussi en fonction des individualités, réussir à former une équipe. C'est ça un petit peu, en fait.
Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. C'est, y a à la fois... Enfin, la différence avec un orchestre, c'est que dans l'entreprise, ils sont toute la journée avec leur manager. Il peut y avoir des bruits de couloir chez nous, comme vous le savez. Si un chef dit une bêtise, tout l'orchestre en profite directement. Donc, il y a quand même des vraies différences qui existent. Mais au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de choses, à savoir cette nécessité de collaborer et d'être ensemble, tournés vers le même objectif. Ouais.
J'ai retrouvé des témoignages de, je ne sais pas si c'est avec vous en tout cas, ces salariés ont travaillé, mais quelqu'un qui dit « je me suis rendu compte de l'importance du tempo et de la variation des rythmes ». Ça a une importance pour un salarié, les tempos, le rythme. Ce qui m'a intéressé, c'est que le chef d'orchestre peut obtenir un résultat grâce à son ouverture, son empathie et une bonne relation à l'autre.
Ça, c'est très important. L'idée qui est derrière, c'est qu'en transformant les choses à l'intérieur de nous, le leader, il va pouvoir transformer le monde en étant alors, la qualité de l'écoute, de la présence, de la cohérence. Donc, pour moi, un très bon chef d'orchestre ou chef de chœur, il est au service de la musique. Donc, plus il est cohérent entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce que son corps va agir et son énergie, plus le message, donc tout ça au service de la musique, va passer. C'est pareil pour un leader. Est-ce qu'il y a une cohérence dans ces deux, entre ce qu'ils pensent, est-ce qu'il y a une notion pour moi d'authenticité. Donc c'est vrai, aller regarder ça, et ça se traduit en termes d'efficacité après, c'est-à-dire, j'aime bien les expressions, minimum d'effort, maximum d'efficacité. Et je pense que Michel le fait parce que j'ai assisté une fois à une de séances de Michel. C'est-à-dire, quand on propose aux personnes de diriger, en ce qui me concerne, c'est le cœur, eh bien, le résultat est immédiat. La manière dont le groupe réagit est immédiat. Et l'idée, c'est de dire, c'est toujours la responsabilité de celui qui a dirigé ce qui s'est passé. Un chef qui est donné, le cœur ne démarre pas. Pourquoi ? Oui. On parlait d'intention. L'intention, c'est très important, c'est essentiel. Le geste n'est qu'un support. Et qu'est-ce qui s'est passé qui fait que... Est-ce qu'il y a eu de l'engagement ? Est-ce qu'il y a eu de l'émotion ? Est-ce qu'il y a eu une anticipation ? Est-ce qu'il y a eu de la relation avec le cœur, du regard ou pas ? Et c'est ça qu'on va regarder.
Marie-Hélène.
Avez-vous été confronté l'un comme l'autre à des réactions de rejet, mais alors vraiment franc et massif de votre démarche ?
Alors, en ce qui me concerne, il y a peut-être trois cas que je pourrais citer. J'ai un cas où une Américaine... me l'a dit a posteriori, moi, à 4 ans, j'ai décidé que je ne chanterais pas. Donc bon, là, je ne peux rien faire pour elle. J'ai un cas dans une entreprise aussi où tout un groupe, comme par hasard, un groupe syndiqué, j'ai rien contre les syndicats en soi, mais comme par hasard, ils étaient tous à l'arrière de la salle et quand j'ai demandé de se lever pour chanter, ben, ils ne se sont pas levés. Et non seulement ça, mais ils ont fait un peu de perturbation, on va dire, au fond de la salle, jusqu'à ce que je reprenne la parole en demandant de simplement, en leur expliquant qu'on était en train de parler d'écoute et de respect, de confiance, et que donc la moindre des choses, je ne leur demandais pas d'adhérer à ce que je faisais, mais au moins qu'ils devaient respecter le travail que faisaient les autres. Et comme par hasard, à la fin, c'était quand même une ambiance un peu particulière dans l'entreprise, puisque des dirigeants sont venus me voir en me disant « j'espère qu'ils ont compris », et des salariés sont venus me voir en me disant « j'espère qu'ils ont compris ». En parlant de leur patron.
Je vais rebondir là-dessus. Je trouve que c'est une question très importante qui est souvent posée par les décideurs avant de s'engager, à nous engager. Est-ce qu'il y a des gens qui disent non ? Oui, pour moi aussi. Je trouve ça très intéressant. Alors pour moi, dans les règles qui sont posées, personne n'est obligé de chanter. Donc il y a vraiment une liberté. Quelqu'un ne veut pas chanter, c'est 100% OK. Et ensuite, c'est intéressant de voir que ce que l'on peut nommer la résistance, c'est-à-dire je ne veux pas chanter, souvent c'est lié à l'histoire personnelle, comme vous disiez, Michel, j'ai décidé de ne pas chanter à 4 ans. Cela est respectable. Il y a une métaphore intéressante à faire entre une résistance qui peut être opérante dans l'entreprise et la résistance au sein du champ. Donc moi, mon travail, c'est de permettre à la personne d'agir, d'être complètement, c'est 100% OK la résistance. Pour moi, la résistance, c'est une énergie. Ce n'est pas toujours agréable pour l'animateur, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Mais moi, une fois, j'ai animé un séminaire. Quelqu'un était très, très résistant. C'était sur 2 jours. C'est sur l'engagement. Et cette personne est venue me voir à la fin. Elle m'a dit, est-ce que tu peux m'aider pour préparer l'engagement artistique que je vais faire ? Et il a fait un engagement magnifique.
Et justement, qu'est-ce que vous pensez apporter aux salariés ? Qu'est-ce qu'on vient vous voir à la fin en vous disant, il y a des choses qui ont changé ou que ça a débloqué quelque chose ou je me sens mieux face à mon écran d'ordinateur ? Je sais pas.
Alors, sans aller jusque-là, d'abord... Faut dire une chose, c'est que la démarche du détour, donc du décalage tel que nous la pratiquons, c'est une démarche qui n'a pas forcément un effet immédiat. Dans le sens où nous sommes plutôt des éveilleurs de conscience et des éveilleurs de confiance. Et donc, et des fois, en entreprise, des dirigeants viennent me voir avant de commencer, ou avant même d'acheter la prestation, et disent « Mais... et lundi prochain, comment ils ont changé des choses ?» Et je leur dis, mais j'en sais rien. J'en sais rien. Je donne un peu la métaphore du jardin en expliquant qu'un jardinier met des graines en terre, mais si elles ne sont pas arrosées, et suivant même l'endroit où elles se trouvent, de toute façon, elles ne pousseront pas de la même façon. Après, pour répondre plus précisément à votre question sur ce qui se passe à la fin, il y a des gens qui viennent vous voir. Il y a des gens émus. Il y a des gens, je n'ai jamais imaginé ça. Il y a des gens... c'est bien votre truc, mais alors qu'est-ce que je peux en faire lundi? C'est mais écoutez, moi j'ai jamais pas, ou alors j'ai toujours chanté faux, et c'est dur de changer.
Mais alors concrètement, vous faites chanter, vous demandez par exemple à un salarié de monter sur un, de se produire devant les autres, vous leur apprenez quelques, même sans les faire chanter, par exemple Michel Podolac, vous
alors jamais seul, en ce qui me concerne, jamais seul, toujours en collectif. Si par hasard à la fin quelqu'un a envie de chanter seul, pourquoi pas.
Mais demandez à un salarié par exemple de diriger ses collègues au travail.
Alors ça parce que il y a une notion, enfin mais là quand je travaille plus sur le leadership, n'est-ce pas, c'est plutôt pour des comités, des dirigeants, un programme que je fais plutôt pour les dirigeants, qui est de faire prendre conscience qu'un orchestre, par rapport à son chef, est un miroir. Et donc, l'essentiel du travail que nous faisons quand on est dirigeant un orchestre, finalement, c'est de polir le miroir pour que le lien entre l'orchestre et nous, et entre les musiciens, soit le plus pur, le plus beau possible, pour que le jour du concert, il se passe des choses. Et donc, quand vous faites la même expérience avec des gens, ils se rendent compte que l'orchestre, que le groupe en face d'eux réagit exactement à ce qu'ils font, que ce soit la moindre hésitation, l'engagement, et puis on va.
J'ai des exemples concrets, ça.
On ne peut le savoir que parce que le manager en question va le dire, va nommer et va dire c'est incroyable, ça arrive souvent, ce qui se passe maintenant, c'est ce qui se passe avec mon équipe. Donc mais pour moi c'est le manager qui doit faire le lien. Sinon, pour répondre à votre question, oui, l'idée c'est d'y aller. L'idée c'est plus chacun s'engage à chanter, et plus il y a du don de soi, et plus l'équipe, plus le collectif va en retirer des bénéfices. Donc il y a une invitation à chanter, mais comme dit Michel, chanter tous ensemble, il n'y a pas de soloiste, voilà,
à se donner.
Oui, non, moi j'avais envie juste d'élargir le sujet, parce que finalement le chant, comme les exercices de mettre quelqu'un devant le groupe, ne sont qu'un moyen d'illustrer notre propos et, en ce qui me concerne, cette réflexion sur comment est-ce qu'on vit ensemble et comment... Et finalement, si on réfléchit au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est bien la problématique qu'ont les politiques dans le monde entier, c'est dans quel monde on veut vivre demain. Une des choses que j'essaie de faire comprendre aux musiciens, aux collaborateurs, mais qui est le même problème des musiciens, c'est que la qualité d'un résultat va dépendre de l'engagement de chacun. Il appartient à la responsabilité de chacun. Je veux dire, si un musicien fait une fausse note, c'est pas de la faute du chef, c'est de la faute du musicien. Il n'y a rien à faire. Le musicien doit jouer la bonne note, il doit jouer avec les autres, en le plus en accord avec les autres, en soutenant, en étant soliste, suivant ce qu'il a à faire. Mais c'est sa responsabilité. Il faut arrêter de renvoyer tout sur le dos du chef, parce que je pense que chaque musicien, du côté orchestre, mais de la même manière, chaque citoyen a une responsabilité dans le devenir du monde.
L'un et l'autre intervenaient en français et en anglais dans les entreprises. Ma question est la suivante. Il existe différentes écoles de direction, d'orchestre. Est-ce qu'il existe différentes écoles de management? J'imagine que oui. Est-ce que vous le sentez? Est-ce qu'on manage différemment une entreprise anglo-saxonne, une entreprise française? Vous sentez ces différences? Vous vous adaptez? Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, d'abord, chaque entreprise a une saveur différente, a une couleur différente, et c'est très intéressant de rentrer dans le monde de l'entreprise et de voir ce qui s'y passe. Après, les valeurs qui sont portées, on rejoint à des choses universelles. La musique a cette immense qualité d'être universelle, donc à travers ça, des processus comme comment j'écoute, comment je suis proche de mes ressentis, comment je peux nommer mes ressentis, comment je suis en relation avec l'autre, par le regard, par la présence,
Alors, sur les types de management entre deux pays, par exemple, entre une entreprise française et une entreprise anglo-saxonne?
Déjà, si vous prenez les Américains, par simplement les Américains sont très pragmatiques. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas leur faire parce qu'ils ont... OK, ça, c'est efficace ou ce n'est pas efficace, on va dire, voilà, par exemple. Mais si après, vous prenez... Si on prend avec les Allemands, par exemple, intéressant, parce que le rapport au chef n'est pas du tout le même en Allemagne et en France, évidemment. Donc là aussi, ça soulève d'autres questions, d'autres réactions et d'autres échanges.
Très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs. Merci, Marie-Hélène. Alors, j'indique juste vos sites internet respectifs. TanguyLuneVen.fr, c'est ça ?
www.tanguy.com
TanguyLuneVen.com et michelpodolak.com, c'est ça ?
mpodolak.com
M-P-O-D-O-L-A-K. Merci à toute l'équipe aujourd'hui. Benoît Gaspard à la technique, Nelly Portal à la préparation de l'émission, Éric Lancien à la réalisation. Bonne soirée, bon samedi et à la semaine prochaine.
Merci.